Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique et qui vous feront dire, je l'espère, rendez-vous compte. Aujourd'hui, on commence ce rendez-vous compte par un merci. Un merci adressé, figurez-vous, au ministre de l'Intérieur. Ouais. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a annoncé la semaine dernière qu'un policier ou un gendarme serait formé et désigné référent sur les questions des maltraitances animales dans les 4000 commissariats de police et brigades de gendarmerie de France. Il faut parallèlement que les magistrats appliquent les textes de loi et soient beaucoup plus fermes dans les condamnations, a réagi dans un communiqué l'association Stéphane Lamarre pour la défense des droits humains. Nous avons alerté le ministre de la Justice sans succès, hélas. M. Dupond-Moretti, ne cachant pas son indifférence face aux cruautés exercées sur les animaux, voire son plaisir d'assister aux corridas, qui sont l'expression même d'une mise en spectacle d'un acte de cruauté sur animal, a commenté de son côté le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Alors, je ne pense pas que notre rendez-vous compte intitulé « Basta Corrida » du 1er décembre dernier, ni même que notre émission de la semaine dernière, intitulée « Quand les poules auront des dents », non, je ne pense pas que ces deux rendez-vous comptes ont décidé le ministre à prendre cette initiative. Mais, écoutez, quand même, merci au ministre. Merci également à Adrien qui va nous lire le texte, qui va nous servir de support pour ce rendez-vous compte.
On m'avait suffisamment reproché mon côté introverti, mon manque de narcissisme. C'était même devenu une pomme de discorde entre Hélène, ma femme et moi. Alors, j'avais finalement cédé au chant des sirènes et je m'étais présenté au jeu télévisé « Question pour un champion ». En toute modestie, je m'étais plutôt bien débrouillé puisque je me retrouvais en finale. Oui, en finale, l'émission était diffusée sur plusieurs chaînes d'Europe. Hélène, ma femme, s'apprêtait à me tresser les couronnes de lauriers destinées aux vainqueurs. Je me sentais en possession de tous mes moyens. J'avais relu mes fiches, consulté pour la 100e fois mes atlas, révisé mes classiques. Hélas, hélas, il a suffi d'une question sur une arachnide de rien du tout dont j'ignorais le nom. Je me retrouvais plongé dans un dédale de perplexité. Je demeurais proprement médusé. J'avais perdu le fil d'Ariane de mes connaissances. Ah, moi, qui avais cru pouvoir me pavaner comme un paon. Eh bien, panique à bord, à moi les oreilles d'âne. Ce que je craignais par-dessus tout, c'est qu'Hélène ne me délaisse pour un Hercule de foire dont le principal trait de caractère serait d'entreprendre toutes sortes de travaux, sans jamais se reposer.
Voilà une bien triste histoire, non ? Une histoire dont je suis le héros déchu, mais une histoire qui va nous servir pour expliquer l'origine de toutes les expressions courantes que contient le texte et que vous savez sans doute reconnues. Encore une fois, c'est dans la mythologie grecque que nous allons retrouver ces histoires. Ces histoires qui vivent toujours en sourdine dans notre vie quotidienne. On m'avait suffisamment reproché mon côté introverti, mon manque de narcissisme. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement Narcisse, ce jeune mortel d'une grande beauté, mais qui, arrivé à l'âge adulte, s'attire la colère des dieux en repoussant l'amour d'une nymphe des montagnes nommée Écho. Faut préciser que la malheureuse Écho ne pouvait de toute façon pas trouver les mots pour attirer l'attention du beau jeune homme. Pour avoir aidé Zeus à tromper la surveillance d'Héra, sa femme, dans une nouvelle affaire d'adultère, Écho a été condamné par la dite Héra à ne plus pouvoir parler, sauf pour répéter les derniers mots qu'elle venait juste d'entendre. Encore une belle et triste légende pour expliquer l'origine de ce phénomène naturel qu'est l'écho. Mais revenons à notre jeune nymphe. Écho implore les dieux de punir Narcisse pour son indifférence. La sanction ne tarde pas. Poussé par la soif, Narcisse surprend un jour son reflet dans l'eau d'une source et en tombe immédiatement amoureux. Il ne peut détacher son regard de son image, dépérit, meurt de désespoir. La fleur blanche qui pousse sur le lieu de sa mort porte aujourd'hui son nom. Vous en avez peut-être dans votre jardin des narcisses. Et dans le langage courant, on dit d'une personne qui s'aime trop et est incapable d'aimer vraiment quelqu'un d'autre, on dit qu'elle est narcissique. Ah, la pomme de discorde. Voilà bien une autre expression courante. Allez, retour à notre mythologie. Thétis est une déesse, une très jolie déesse. Gusseus et Poséidon étaient séduits par sa beauté, mais une prophétie avait averti les dieux que le fils que Thétis porterait serait un jour plus puissant que son père. Prudemment, Zeus et Poséidon jugent préférable de la destiner à un mortel. Et ce mortel, ce sera le jeune Pélée. Tous les dieux, toutes les déesses assistent aux noces de Thétis et Pélée. Seule Eris, la déesse de la discorde, n'est pas invitée. On se doute un petit peu pourquoi. Furieuse, elle va donc cueillir l'une des pommes d'or du fameux jardin des Hespérides, sur laquelle elle grave l'inscription « Pour la plus belle des déesses ». Et puis, par vengeance, et pour s'amuser, elle jette la pomme en plein milieu du banquet pour semer la discorde entre les déesses présentes. Trois des plus puissantes déesses réclament la pomme pour elles-mêmes. Chacune se juge la plus belle. Il s'agit d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, Héra, femme de Zeus, déesse du mariage, et Athéna, fille de Zeus, déesse de la sagesse et de la guerre. Zeus a peur de choisir entre les trois prétendantes, sachant que les deux perdantes imagineraient mille et une représailles à son égard. Bien que maître de l'univers, notre Zeus n'est en fait pas si courageux que cela. Il envoie donc Hermès, son fidèle messager, à la recherche du plus beau jeune homme existant sur Terre. Ça sera ce beau mortel qui choisira à sa place. Et ce même mortel qui se fera une alliée de poids, celle qu'il désignerait comme la plus belle, mais il se ferait aussi surtout deux ennemis redoutables, les deux déesses qu'il n'aurait pas choisies. Ce beau mortel, il s'agit de Paris, un jeune berger innocent, le fils du roi de la célèbre ville de Troie. Un jour, les trois déesses lui apparaissent sur une colline et elles lui demandent de désigner la plus belle. Pour influencer son choix, chacune lui promet une récompense véritablement divine. Héra lui offrira la domination de l'Asie et de la richesse. Athéna lui fera gagner toutes les guerres, mais lui assure également la beauté et la sagesse. Aphrodite, quant à elle, lui promet l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène, reine de Sparte, épouse du roi Ménélas. Paris choisit Aphrodite par attirance pour Hélène, dont la beauté est célèbre dans tout le monde méditerranéen. L'amour, et non la sagesse, on le sait, dirige les choix et les actions de bien des humains. Le choix que Paris vient d'effectuer est connu depuis comme le fameux jugement de Paris. Ce jugement de Paris qui inspirera d'innombrables artistes, de Rubens, qui en donnera quatre versions différentes, jusqu'à Paul Cézanne. Mais revenons à notre histoire. Un peu plus tard, Paris se rend en ambassadeur à Sparte, la ville dont le roi est Ménélas. Grâce à Aphrodite, il séduit sans mal Hélène, la femme de Ménélas. Aussitôt, les deux nouveaux amants se réfugient dans la ville de Troie, dont le roi Priam est le père de Paris. Ménélas, le mari délaissé, et Ulysse se rendent à Troie pour réclamer la fugitive, sans succès. Alors, tous les rois grecs réunissent leurs armées et partent attaquer Troie, qui protège la femme adultère et son amant. C'est le début d'une guerre de 10 ans, qui se soldera par la victoire des Grecs, grâce au cheval de bois imaginé par Ulysse. La belle Hélène, le jugement de Paris, la pomme de discorde, trois expressions courantes. Et tout ça parce qu'on n'a pas invité au mariage de Thétis et Pélée, la déesse de la discorde. Rendez-vous compte. J'avais finalement cédé au chant des sirènes. Parmi les créatures mystérieuses et terrifiantes qu'ils ont inventées, les Grecs redoutent particulièrement les sirènes. les sirènes, ces créatures marines postées à l'entrée du détroit de Sicile qui guettent cruellement les navigateurs pour les charmer avant de les entraîner vers une mort horrible. Leur nombre varie selon les auteurs, jusqu'à 8 chez Platon. Contrairement aux représentations futures, qui à partir du Moyen-Âge les décriront en femmes-poissons, le corps des sirènes grecques se compose d'un buste de femme sur un corps d'oiseau, le tout parachevé par des serres de rapaces. Selon une légende romaine, c'est la déesse Cérès qui les transforma en femmes-oiseau. Et pourquoi une telle vengeance? Parce que Cérès les punit pour ne pas être intervenue lors de l'enlèvement de sa fille Proserpine par Pluton, Hadès pour les Grecs, le dieu des enfers qui fit de Proserpine sa femme, enfermée avec lui dans son royaume souterrain. La puissance de séduction des sirènes réside dans leur chant envoûtant. Leur nom d'ailleurs évoque leur pouvoir. L'une est la sirène à la voix brillante, l'autre aux paroles enchanteresses, la troisième est celle qui persuade les esprits. Leur île est entourée des ossements des marins morts, fascinés par leur chant mélodieux. Elles chantaient, paraît-il, des prophéties et des chansons inspirées justement par Hadès, figurez-vous, le dieu des morts, dont elles étaient en quelque sorte les agents recruteurs. Un oracle avait prévu qu'elles mourraient le jour où elles laisseraient échapper un navire. Elles devraient alors se précipiter dans la mer et disparaître à jamais. Dans l'Odyssée, Ulysse, inspiré par Circé, la magicienne, utilise la ruse que l'on connaît. Il ordonne à chacun de ses hommes de se boucher les oreilles avec des petits morceaux de cire. Lui seul conserve ses oreilles ouvertes. Il se fait lier 3 fois au mât avec des cordes. Et à chaque fois qu'il demandera à être détaché, ses hommes resserreront un peu plus les liens. Ulysse entendra ainsi ce qu'aucun homme n'a entendu sans mourir, le chant des sirènes. Vaincues, celles-ci se donneront la mort, cédées au chant des sirènes. C'est succomber à la tentation, quitte à se mettre en danger. Vous êtes bien sur EDFM, nous retrouvons la suite de ces belles histoires mythologiques après cette chanson du rappeur Josman intitulée Narcisse.
Ma confiance en moi me donne des ailes. Merci. Où l'instinct de peur a comme je les ai. Merci. Je sers mon oseille en bouffe, en choux, en sas. Me préoccupe de moi, de moi, de moi et le reste mental. Merci. 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 J'ai trop la classe, la race en place quand on voit dans la glace. Merci. 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 J'ai confiance en personne. Par en moi-même, je suis fier de moi-même. J'étais déjà avant que mes parents voient mes exploits, donc laisse-moi faire ma vie. J'éradique le reste et je suis la seule thématique de mes schémas dream. Je pense que je suis le plus chaud, sa mère. J'ai pas de flow, non, j'ai toute l'eau de la terre. Vantard tête, mais c'est normal vu ce que je sors. Fuck, un disque.
Vous êtes toujours bien sur IDFM. Après Narcisse, cette chanson de Josman, nous poursuivons la découverte de ces expressions de notre vie courante issues de la lointaine mais présente mythologie. J'avais finalement cédé au chant des sirènes et je m'étais présenté au jeu télévisé Question pour un champion. L'émission était diffusée sur plusieurs chaînes d'Europe. Savez-vous d'où vient le nom Europe désignant notre continent? Naturellement encore une origine mythologique. Europe était une jeune phénicienne, une jeune et belle mortelle, fille du roi de Tyr, une ville de Phénicie, l'actuel Liban. Europe. Son nom signifie « la fille aux grands yeux ». Elle attire un jour depuis l'Olympe l'intérêt de Zeus. Zeus qui s'éprend de sa beauté et de sa grâce, mais comment faire pour déjouer la surveillance d'Héra, sa femme? Eh bien, Zeus met immédiatement en œuvre un plan très habile. Pour éviter de déclencher la suspicion de son épouse et frayer son chemin jusqu'à la jeune fille, Zeus décide de se métamorphoser en un ravissant taureau blanc. Alors que la jeune fille cueillait des fleurs, elle aperçoit le taureau. Vous pensez qu'elle va prendre peur et s'enfuir ? Mais le bel animal s'approche sans brusquerie de la jeune fille et se montre particulièrement affectueux. Fasciné par ses flancs immaculés et son tendre comportement envers elle, Europe le caresse avant de monter sur son dos. Ah, le sort en est jeté, Zeus saisit cette opportunité pour enlever Europe et nager jusqu'en Crète. Il lui révèle alors sa véritable identité avant d'abuser d'elle, sous un platane depuis toujours vert. Elle tombera enceinte et mettra au monde Minos, qui allait devenir le roi de Crète. L'enlèvement d'Europe a encore une source sans fin pour d'innombrables peintres, de Rubens, Rembrandt, Goya à Félix Vallotton. Europe, la fille aux grands yeux, donnera donc son nom à l'Europe, le continent immense où la vue porte loin. Mais précisons que les anciens Grecs l'appelaient Europe, l'aire géographique à l'ouest et au nord de leur pays. Mais savez-vous que c'est bien l'enlèvement d'Europe qui figure toujours sur la pièce grecque de 2 euros ? Curieux symbole, direz-vous, que de choisir ce mythe antique de l'enlèvement, le viol d'une jeune fille pour symboliser l'Europe contemporaine ? Et les images figurant sur les pièces de monnaie ne sont pas choisies au hasard. L'euro, introduit en 2002, marquait la transition vers une nouvelle Europe. Changement radical, non ? Alors, pour atténuer une inquiétude diffuse dans la population, la scène figurant sur cette pièce de 2 euros apportait l'assurance de la continuité. La nouvelle Europe était aussi l'ancienne Europe, avec sa très ancienne tradition qui remontait à la grecque ancienne. Hélène, ma femme, s'apprêtait donc à me tresser des couronnes de laurier. Je vous ai déjà raconté dans un précédent rendez-vous compte l'histoire de la jeune nymphe Daphné qui, pour échapper au dieu Apollon, dieu de la poésie, se métamorphose en laurier. Ce laurier dont on ornera le front des meilleurs poètes, ce laurier qui a donné le nom lauréat, désignant celui ou celle qui remporte un concours ou réussit un examen. Je me sentais en possession de tous mes moyens. J'avais relu mes fiches, consulté pour la 100e fois mes atlas, révisé mes classiques. Atlas était un titan. Un groupe de 12 géants. Avec à leur tête Cronos, père de Zeus. Des dieux antiques détrônés par une nouvelle génération qui les a chassés du pouvoir. Ce pouvoir sur l'univers, Zeus en est devenu le maître absolu. Alors, les titans se révoltent. Ils cherchent par les moyens les plus violents à rétablir leur autorité. Vous voyez, le conflit des générations est vraiment éternel. Une guerre titanesque, évidemment, s'ensuit, que Zeus gagne avec l'aide d'Héraclès. Zeus frappe les titans de la foudre et les relègue dans le Tartare, un lieu ténébreux au creux le plus profond de la terre. Ce Tartare, où Cronos avait d'ailleurs autrefois précipité les cyclopes. Zeus condamne alors le titan Atlas, révolté, à porter la voûte céleste sur ses épaules jusqu'à la fin des temps. Les temps passent, justement, et semblent bien longs au pauvre Atlas. Persée, fils de Zeus et de la mortelle Danaé, vous savez, ce héros qui est parvenu à tuer la gorgone Méduse, Persée, après son exploit, est pris dans une tempête. Il demande alors à Atlas de l'abriter dans son temple. Réponse d'Atlas, il refuse. Persée, furieux, sort alors la tête de la Méduse qu'il garde dans un sac et la montre à Atlas qui, rencontrant le regard de la gorgone, est aussitôt changé en pierre. C'est ainsi qu'il devient le mont Atlas. Une autre légende raconte que Héraclès, désirant s'approprier les précieuses pommes d'or du jardin d'Hespéride, va trouver lui aussi Atlas. Héraclès lui demande de s'emparer des pommes d'or pendant qu'il prendra momentanément la place d'Atlas pour soutenir la voûte céleste. Atlas s'en va, soulagé de la voûte céleste pendant quelques minutes, il revient avec les pommes. Mais par ruse, Héraclès lui fait reprendre sa place définitivement. Il portera la voûte céleste jusqu'à la fin des temps. Les premiers livres de cartes géographiques ont été appelés Atlas, du nom de ce géant qui, du haut de sa très haute taille, est capable de voir et donc de décrire l'univers entier. Hélas, il a suffi d'une question sur une arachnide de rien du tout dont j'ignorais le nom. La jeune mortelle arachnée avait atteint une telle maîtrise dans l'art du tissage qu'elle a un jour l'audace de lancer un défi. Un défi à qui ? À Athéna, figurez-vous. Athéna, la déesse guerrière, la fille de Zeus, la déesse orgueilleuse. Elle accepte le défi. La mortelle, comme la déesse, commence leur ouvrage. Une fois qu'elle est terminée, il n'y a pas d'hésitation. Celui d'Arachné est plus réussi que celui de la déesse. Alors Athéna, dépitée par la perfection de l'ouvrage de sa rivale, le déchire en morceaux. De désespoir, Arachné se pend. La déesse prise de pitié, peut-être, même si ce n'est pas vraiment son genre, la déesse desserre la corde et transforme Arachné en araignée qui, depuis, continue à tisser sa toile avec ses consoeurs de la classe des arachnides. Je me retrouvais plongé dans un dédale de perplexité. Ah, Dédale, architecte de Minos, le roi de Crète. C'est lui qui a construit un labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Vous savez, ce monstre moitié taureau, moitié humain, qui se nourrissait de chairs humaines. Pour le punir d'avoir aidé Thésée, qui a tué le Minotaure dans le labyrinthe, Minos enferme Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe que Dédale a lui-même construit. Il se trouve que dans le labyrinthe, Dédale trouve de la cire d'abeille. Alors avec cette cire, il va la réaliser avec des plumes d'oiseaux qui se trouvent là. Il va réaliser des ailes à son fils et à lui-même, des plumes qui sont collées avec la cire d'abeille. Ils sont donc prêts à partir, à quitter le labyrinthe et à voler loin de la Crète. Dédale recommande à Icare, son fils, de ne pas voler trop haut. Le soleil ferait fondre la cire, entends-tu ? Mais évidemment, Icare désobéit à son père. Il s'élève trop haut dans le ciel, tout content de cette possibilité d'échapper au fameux labyrinthe. Mais il s'approche trop du soleil et il tombe dans la mer et meurt noyé. Aujourd'hui, le terme Dédale est synonyme de labyrinthe. Encore un nom propre, devenu nom commun. Je demeurais proprement médusé. Méduse, l'une des horribles gorgones dont le regard vous pétrifiait. D'où le verbe médusé, être frappé de stupeur comme transformé en pierre. Dans une des premières émissions, je vous ai plus longuement parlé de Méduse, belle jeune fille violée par le dieu Poséidon dans un temple d'Athéna, et pour cela métamorphosée en monstre aux cheveux de serpent. Méduse qui pourrait être l'égérie des mouvements féministes. Vous êtes bien sur IDFM, nous retrouvons la suite de ces belles histoires après la chanson d'Yvan Dautin intitulée « La Méduse » de Saint-Malo.
La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Les coquillages et les crustacés en ont assez de se faire écraser sous les rayons d'un vélo majuscule et d'une méduse qui vous tentacule. C'est là qu'il ne faut pas s'envélir mélo les passos dans la chaîne de vélo. Je continue. La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Elle en peint.
Vous êtes toujours bien sur IDFM. Après la méduse de Saint-Malo, nous poursuivons la découverte de ces expressions de notre vie courante, issues de la lointaine et pourtant présente mythologie. J'avais perdu le fil d'Ariane de mes connaissances. Ariane, fille du roi de Crète Minos, dont nous avons parlé à l'instant. Ariane, séduite par le beau et jeune Thésée, qui doit entrer dans le labyrinthe construit par Dédale pour combattre le Minotaure. Ariane lui donne un fil qu'il déroulera le long du trajet. Après avoir tué le Minotaure, ce qui n'est pas une mince affaire tout de même, il lui suffira de suivre le fil pour retrouver la sortie. Thésée, vainqueur du monstre, promet à Ariane de l'épouser. Ne lui a-t-elle pas permis de ressortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure ? Hélas, Thésée abandonnera Ariane sur l'île de Naxos parce qu'il en aime une autre, parce qu'un dieu amoureux d'Ariane lui fait oublier involontairement la jeune femme sur l'île. Toujours est-il que Dionysos, le dieu du vin, entend pleurer Ariane. Il l'épouse, la rendant immortelle, et l'emmène sur le mont Olympe où résident les dieux les plus importants. Perdre le fil d'Ariane, c'est oublier ce que l'on disait, ce que l'on entendait ou ce que l'on savait. Moi qui avais cru pouvoir me pavaner comme un paon. Une expression qui nous renvoie à un autre épisode de la mythologie. Junon, l'épouse de Jupiter, avait pour animal fétiche un paon. Un paon dont les plumes étaient au départ entièrement blanches. Junon avait chargé un monstre aux sans-yeux, nommé Argus, de surveiller une jeune fille Io, séduite et transformée en vache par Jupiter, son très infidèle mari. Mais le malheureux Argus se laisse endormir, au sens propre du terme, par Mercure envoyé par Jupiter. Alors Junon, furieuse, lui coupe la tête, s'empare de ses yeux et les lance sur les plumes de son paon qui dès lors va pouvoir se pavaner fièrement. Quant au verbe pavaner, il ne vient pas de pavot, le paon en latin, mais plutôt d'une danse espagnole où les danseurs font la roue l'un devant l'autre, comme des paons, rendez-vous compte. Eh bien, panique à bord. Le terme panique est encore une référence à un dieu, le dieu Pan, le dieu des bergers, des troupeaux, le dieu des instincts primitifs. Son front porte deux cornes, son torse velu et humain. Par sa laideur, il inspirait la peur aux voyageurs, provoquant ainsi leur panique, bien sûr. À moi les oreilles d'âne. À l'origine de cette expression, on retrouve l'imprudence d'un mortel vis-à-vis d'un dieu. Cette fois, ce mortel est le roi Midas. Sollicité pour être juge d'un concours de musique entre Apollon, jouant de la lyre, et Marsyas, jouant de la flûte de Pan, Midas choisit Marsyas comme vainqueur. Apollon insulté se fâche, tue Marsyas et se venge de Midas en l'affublant d'oreilles d'âne, qu'il s'efforcera de cacher, mais en vain. Voilà, notre rendez-vous compte est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette balade dans le dédale des sources mythologiques de quelques expressions courantes et que vous n'avez pas perdu le fil d'Ariane. Des histoires souvent tragiques, mais qui vous disent « Et pourtant, le bonheur est là ». De quoi renforcer votre narcissisme, recevoir des lauriers qui laisseront méduser les jaloux et sèmeront la pomme de discorde et la panique chez les Hercules de pacotille, insensibles au chant des sirènes. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure sur IDFM. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Val-d'Oisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.